Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. Carl Zéro balance tout, c'est le titre de son livre et je peux vous dire qu'il tient sa promesse. Il sera avec nous dans un instant. Et puis à 10h30, après les révélations du documentaire d'M6 de Zone Interdite sur les dysfonctionnements scandaleux de l'aide à l'enfance, comment faire changer les choses, on en parlera avec vous. Vous pouvez témoigner si vous avez été, vous, un enfant placé, si vous êtes famille d'accueil. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pour le 10h midi avec Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Et Carl Zéro,
bonjour.
Notre invité. Bonjour, on est ravis de vous recevoir.
Mais je suis ravi d'être
pour
là.
Pour ce livre, Carl Zéro balance tout et vous tenez vos promesses, vous balancez tout. Alors vous dites que ce ne sont pas des mémoires, que c'est une balade sur 40 ans de carrière. C'est un peu des mémoires quand même, parce que vous passez en vue...
Non, parce que je n'ai pas de mémoire. Et depuis que j'ai fini le bouquin, que j'ai écrit en 25 jours, il y a plein de trucs qui me reviennent. Je me dis, il faut faire un tome 2.
Il y aura un tome 2.
Il y a tellement d'histoires.
On va y revenir. Vous parlez évidemment de la télé. Vous parlez de tout. On va
en parler. Valérie, enfin, l'aigle.
Oui, et puis l'aigle.
On est
l'aigle. Et bah
oui,
l'aigle.
Mais oui, on est l'aigle.
L'aiglon, ça se termine effectivement par quand le livre apparaît. Je peux pas vous le dire, mais regardez. Et puis effectivement, on a l'aigle de Mask Singer avec nous. Vous regardez la télé, Carl Zéro?
À part l'aigle, pas tellement.
Pas tellement. Non, vous la regardez pas du tout?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. À part peut-être des... Non, je regarde plus Internet, en fait. Mais sinon, bon, je regarde Netflix, je regarde... parfois, sur LCP, je trouve qu'il y a des sujets, des docs intéressants, sur Arte. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose qui me plaît.
Les chaînes d'infos, non.
les chaînes d'infos, pas vraiment. C'est pas... Pourtant, j'ai fait
vous
partie...
Vous en avez fait, oui. Vous avez été sur BFM, vous
oui,
en parlez.
Oui, mais j'y arrivais pas, en fait. Parce que c'est tout se vaut et une info chasse l'autre et ça n'a pas de sens. Et je trouve que ça rend idiot, les gens. Et donc, c'est un mauvais travail, voilà.
Vous regardez...
À ce point-là, BFM est un mauvais travail.
Enfin, les chaînes d'infos.
Tout, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Ça te lessive la tête et tu sors de là, t'as oublié aussi vite. Et il n'y a rien qui ressort vraiment. Donc, regarde, le coronavirus, on en bouffe, mais jour et nuit. Mais ça va, lâchez-nous. La grippe espagnole, elle a fait, je ne sais pas, 100 millions de morts. Là, il y a 5000 morts, 3200 morts, je ne sais pas combien. C'est bon, quoi. Ouais. J'aime pas cette idée que des moutons qui se suivent et qui racontent tous la même chose au même moment.
Et vous n'avez pas le réflexe de mettre BFM pour être au courant de l'actu? C'est un réflexe, devenu un réflexe.
Non, dans ce cas-là, non, je regarde sur Internet.
Ouais, sur Internet, vous informez sur Internet. Hier soir, vous avez regardé la télé ou pas?
Non, du tout.
Du tout. Vous savez même pas ce qu'il y avait hier.
Non, qu'est-ce qu'il y avait hier?
Eh bien, est arrivé en tête, je donne les audiences tous les matins, sur France 3, le téléfilm policier Prière d'enquêter avec Sabrina Ouazani, qui a fait 4 264 000 téléspectateurs.
Une 20% belle victoire pour la 3.
Pour France 3, c'est un très bon score. Magnum, en revanche, pour TF1, c'est pas terrible. 100 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière, 3 383
000 téléspectateurs.
Ouais, c'est pas mal, mais c'est pour TF1, c'est pas suffisant.
Et en plus, c'est pas le vrai Magnum, celui de mon
mais
enfance.
Non. Ah, vous voyez, vous regardez quand même, vous êtes au courant.
Petit, je regardais.
Oui,
mais
oui.
J'imagine qu'ils rediffusent pas Magnum avec Tom Selleck.
C'est un nouveau Magnum. C'est un nouveau Magnum, effectivement, et qui n'a plus de moustache. Hein.
Il a plus de moustache, et puis surtout,
il n'a plus d'intérêt.
Higgins est devenu une femme. Hein.
Allons bon.
Ah, non. Higgins,
c'est insupportable.
C'est pas possible.
Non à la parité dans Magnum.
Le gadin, c'est pour France 2 avec le grand oral de Laurent Ruquier. 1 390 000 téléspectateurs. C'est 100 000 de moins que l'année dernière, qui était déjà un flop.
Aïe.
C'était pas tellement bien. Pour
mais c'était tellement nul.
C'était
pardon.
Tellement bien. Non, mais je suis ironique.
C'était pas bien.
Non.
Il fera le grand écrit. C'est pas grave.
Voilà. Et on a alors qu'avez-vous regardé? Nos auditeurs nous appellent tous les matins. Ah. Delphine est en ligne avec nous. Bonjour Delphine.
Oui, bonjour.
Vous avez regardé quoi?
J'ai regardé la 3 sur vos bons conseils de hier matin, puisque vous en aviez parlé hier matin.
C'est Rémi Pernelet qui, tous les matins, vous donne des conseils,
Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai bien aimé, comme toutes ces séries un petit peu policières sur A3, de meurtre ici, meurtre en Gournois, et des petits polars comme ça, ouais, ça change. Voilà. Donc... Et vous me faisiez sourire à votre Magnum, là, parce que c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus ni ses moustaches, ni Higgins, ni Doberman, c'est plus Magnum, quoi.
Et voilà, c'est générationnel.
C'est ça, ouais, carrément, je pense que c'est ça. J'avais bien envie de regarder le premier, mais quand j'ai su que c'était plus lui,
un petit peu fatigué, peut-être, Tom Selleck, maintenant, un petit peu.
J'ai peur qu'il soit décédé.
Il est mort?
Non, il n'est pas mort. Ah non, c'est Manix qui est mort.
Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir avoir appelé. C'est quoi vos souvenirs d'enfance?
Amicalement vôtre. Ouais. La Une est à vous avec Bernard Golay. Ouais. Le samedi après-midi, vous regardez ça
avec les mystères de l'Ouest.
Il y a les mystères de l'Ouest, on pouvait choisir, soi-disant.
Absolument, soi-disant. SVP, absolument.
On tombait sur Guy Darbois et on disait je veux voir les mystères de l'Ouest. Voilà. Aussi, comment l'incroyable Chapeau Melou et Bottes de Cuir. Ah ben oui. David Vincent et les Envahisseurs. Inoubliable.
Les
Incorruptibles. Voilà des feuilletons. Voilà des séries, monsieur.
Voilà, ça c'était.
C'était fascinant. Fascinant.
Zérorama,
c'est très peu de temps après.
La première fois que vous êtes apparu à la télé, vous,
j'ai été invité à Aujourd'hui, Madame, quand on faisait Jalon. Alors c'est vraiment, ça doit être 78 ou 79, et je suis venu, je crois que, oui, on avait lancé une campagne pour la réélection de Georges Pompidou, qui avait la mauvaise idée de mourir 4 ans avant.
Qu'est-ce que c'était drôle, Jalon,
c'était
le
délirant,
monstre,
oui, délirant.
Vous le racontez, hein, vous racontez un petit peu
c'est
dans
des
le
journaux
livre.
Qui étaient détournés pour nos auditeurs.
Des parodies de journaux.
Des parodies de journaux, c'était très drôle.
Et des campagnes, la manif contre le froid au métro glaciaire, Mitterrand, assassin, verglas, complice, non le contraire d'ailleurs, verglas, assassin, Mitterrand complice. C'est toute une époque. Donc c'est ma première télé, mais j'étais très mauvais, hein. J'étais tétanisé.
Tétanisé, vous étiez venu faire la promo. Et après ça a été en tant qu'animateur
En tant qu'animateur, ça a été, après ça a été nul par ailleurs.
C'était nul par ailleurs.
Oui, parce que sinon c'était Radio Nova avec Daisy. Et puis, il y a eu TF1 entre-temps. Où j'ai été engagé, par Lelay Moujotte avec Jean-Yves Lafesse pour faire Pirate.
Pirate,
on a fait qu'un numéro, on s'est fait jeter. Il faut dire, entre-temps, on avait pris le melon, on était payé pour la première fois de notre vie. Et alors, on voulait absolument avoir le final cut, sans bien savoir ce que ça voulait dire. Ce qui fait qu'ils nous ont jetés.
Oui, c'était pas trop le genre de la télé. Le final cut, c'est compliqué. Vous en parlez assez bien dans le livre. On va passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie Carl, hier, Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, réagissait à l'affaire Mila sur BFM.
On peut insulter la religion, c'est une idéologie. Par exemple, on peut insulter le communisme stalinien et maoïste. Staline et Mao ont fait 80 millions de morts. On peut dire que c'est des idéologies de merde, sans aller en prison. Ouais. Ce sont des idéologies criminelles. Et lorsqu'il y a des religions, il y a une part d'une religion qui se radicalise et qui est criminelle et qui fait des morts. Pour ce qu'a dit Mila, la moitié de mes amis sont morts.
Dans l'émission de Bruce Toussaint hier, toujours sur BFM, ils ont ressorti la boîte à archives sur le viol. Alors écoutez bien, c'est édifiant, c'est en 1990, deux sportifs d'athlétisme qui ont été violés lors d'un stage en préparation, elles vont être licenciées par la Fédération d'athlétisme et leurs agresseurs iront au JO de Barcelone, petite récompense.
Pas mal, édifiant.
Et ils ne seront presque pas condamnés, écoutez l'archive.
Leurs quatre agresseurs ont eu pour seule peine quelques mois de prison avec sursis, à la suite de quoi ils ont repris la compétition à haut niveau. Alors qu'en brisant la loi du silence, les deux jeunes femmes n'ont jamais pu reprendre les entraînements, considérées non pas comme des victimes, mais comme responsables de troubles au sein de la Fédération Nationale d'Athlétisme.
Dans cette histoire, moi je demande qu'est-ce que je deviens, parce que, encore une fois, c'est quand même moi la victime, alors qu'on essaie de me traiter comme une coupable, comme une pestiférée, comme une brebis galeuse, et je rappelle quand même que je n'ai pas demandé à être violée en stage national.
Ben elle, il faudrait la réinterviewer aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui. Oui,
ça serait très intéressant de voir quelle vie elle a eue, si elle a continué dans le sport ou pas, est-ce que ça a mis un terme à sa carrière. C'est bien parce que c'est en train de s'ouvrir vraiment en ce moment. Je suis ravi parce que c'est quand même une cause pour laquelle je lutte depuis
Depuis longtemps, effectivement.
Et là, tout d'un coup, les langues se délient et ça commence à sortir. Ouais. Je crois que c'est la suite de... En fait, il y a eu MeToo, Balance ton port, puis on commence à s'intéresser aussi aux mineurs.
Oui.
Alors, moi, personnellement, je serais d'avis de supprimer la prescription, totalement.
Oui, mais je suis assez d'accord avec vous.
C'est-à-dire, sur ces affaires-là, c'est trop facile. Quand vous prenez, par exemple, l'affaire Epstein, le fournisseur, c'est Jean-Luc Brunel, c'est un Français. Il fournit des très, très jeunes filles. On parle de trois jeunes filles de 12 ans, françaises, amenées à Epstein. Eh bien, il y a eu 12 plaintes de victimes. Elles sont toutes prescrites, ce qui fait qu'on ne peut pas poursuivre ce personnage.
Oui, et on voit que les femmes parlent 30, 20, 30, 40 ans après,
parce que c'est difficile et qu'à l'époque, ça ne se faisait pas d'en parler. En fait, ça ne s'est jamais fait d'en parler. Non. C'est la première fois qu'on peut en parler librement.
Oui, et qu'on est prise au sérieux, que les femmes sont écoutées et que la parole est écoutée.
Bien sûr.
Alors Gilles, autre chose.
Licencié quand même, hein, ces deux femmes. Hein, c'est juste
dégueulasse.
Fou. Et puis, certains parlent de l'affaire Abitbol, puisqu'on est en train d'en parler tous les trois. Et bien, Candeloro est était également partout dans les médias, radio,
télé. Oh bah ça, il est toujours partout.
Presse, ouais, et quotidien. Il a fait passer un petit message subliminal.
Non, mais c'est quotidien, oui. Hier soir, il faut expliquer qu'il a recensé un petit peu toutes ses interventions et qu'il a relevé une chose un peu récurrente.
Voilà, écoutez. Quotidien a cru voir un message subliminal.
Ah, mince.
Je pense qu'on a tous envie qu'il y ait une nouvelle relève. Ça, c'est sûr. Tout le monde me pousse, moi, à dire il n'y a qu'un mec comme toi, avec l'aura que t'as et ton honnêteté, à reprendre sainement une fédération. Je suis peut-être la personne la plus légitime d'aller reprendre une fédération comme la nôtre. Là. Moi, je suis autant passionné que Didier Gayaguet. Parce que si un jour, par exemple, je donne un exemple tout bête, je suis président, je peux pas cautionner.
Et le dernier, on l'adore.
Moi, je pense que je serais à la place de Didier. Il m'aurait passé un coup de fil, il m'aurait dit « Écoute, c'est tellement la merde, je te file le bébé ».
Et pour finir, alors écoutez bien, c'est sur France 3 Région, ça a beaucoup buzzé sur le web. Alors, vous savez, parfois, le Rassemblement National manque de candidats. Et c'est un peu le cas à Port-la-Nouvelle. Ils ont donc parachuté Charles Rochagneux, qui a à peine 20 ans et il vient d'arriver.
Vous êtes un parachuté ici, à Port-la-Nouvelle.
Parachuté à Port-la-Nouvelle. Je ne suis pas un migrant, hein. Je suis français, Port-la-Nouvelle, ça m'appartient. Moi, j'aime Port-la-Nouvelle, je viens à Port-la-Nouvelle depuis que je suis tout petit. Donc, pourquoi lui serait pas plus un parachuté que moi? Moi, je suis le sauveur des Nouvellois, je suis le sauveur de Port-la-Nouvelle.
Le sauveur des Nouvellois, ça c'est génial.
Il est formidable.
Voilà. Ouais, il est absolument génial, il faut le voir avec l'image, effectivement, il est assez marrant. Mais ça vous manque de pas commenter l'actualité ou pas?
Non, pas du tout.
Pas trop?
Pas
la
du tout.
La télé vous manque?
Non, globalement pas beau. Enfin, là, par exemple...
Vous diriez pas non.
Non, ça dépend à quoi.
Ça dépend quoi, ouais.
Ça dépend vraiment à quoi, parce qu'il n'y a plus du tout la liberté que j'ai pu connaître il y a 15-20 ans. Ça n'a plus rien à voir, c'est quand même... T'es obligé, ça ressemble à aller faire ce qu'on appelle des ménages, quand on fait des conventions. Aujourd'hui, la télé, c'est plus ce que c'était. Donc, si c'est pour me trouver face à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire... En fait, leurs centres d'intérêt ne sont plus du tout les mêmes.
Une petite interview en tutoyant Macron.
Mais non, mais ça serait du réchauffé, ce n'est pas utile. Ouais. Quand un truc a existé, ce n'est pas la peine de vouloir recréer ce truc. Là, par exemple...
Non, mais faire autre chose.
Autre chose, oui. Là, on fait, par exemple, on fait un...
Dans la peau de Macron.
Non. Avec Daisy, on a une série sur Arte qui s'appelle L'ombre au tableau. Et là, on est en train de faire Alain Delon. Voilà, on fait des docs. Mmh. Mais aller faire de l'animation pour de l'animation, ça ne m'intéresse pas du tout.
Mmh. Ouais.
C'est vide.
Daisy, c'est votre femme, hein, Daisy Derrida.
Ouais, bien sûr.
Il faut le repréciser. C'est un couple d'une longévité
exceptionnelle,
surtout dans nos milieux, certains vous diront.
Et oui, bien sûr.
Vous racontez votre rencontre avec Daisy à l'âge de 18 ans,
ouais,
et vous lui rendez hommage pratiquement tout au long du livre. Elle est très présente parce
elle est toujours là. Ouais,
elle est toujours là, et puis elle a été là, vous revenez assez longuement sur l'affaire Allègre, où vous dites que ça a brisé votre carrière nette, et elle a été là tout le temps.
Ça a mis un sérieux coup d'arrêt.
Ouais,
briser,
ouais.
C'est un grand mot. Enfin, oui, c'était le but, en tout cas.
C'était le but, c'était...
On va dire de la partie adverse, mais c'est vrai que ça a mis un gros coup d'arrêt, qu'elle a été là, qu'elle a enduré le coup, et elle a vu surtout le téléphone ne plus sonner, le boulot s'en aller, etc. Et elle est restée. Elle aurait pu se barrer. Hein.
Ouais. On apprend plein de choses sur vous dans le livre. Vous dites, encore une fois, c'est une balade, ce ne sont pas des mémoires, mais on traverse quand même 40 ans de votre vie, d'émissions, de rencontres qui vous ont marqué. Moi, je ne savais pas que vous aviez voulu devenir flic à un moment.
C'est mes parents. Hein,
ouais.
C'est mes parents qui
s'étaient dit... Vous dites, pourquoi pas?
Bon, ouais. J'avais pas trop d'idées, je savais pas du tout quoi faire. Je voyais bien qu'à l'école ça n'allait pas.
Ouais.
Ils se sont dit, puisque t'es assez malin, tu pourrais être flic, par exemple, tu poses des questions, t'es un mec, t'es curieux de nature. Bon. Et en fait, Daisy m'a empêché d'y aller.
Parce que vous êtes revenu au fait divers.
Par le biais de cette affaire Allègre et ensuite de tous les documentaires sur 13e rue RMC Découverte. Je me suis retrouvé d'une certaine façon à être flic.
Un peu flic, mais ce que j'ignorais, c'est que vous aviez été dessinateur de BD au départ.
Au tout départ, oui, c'est ça.
Au tout départ.
Mon vrai talent, finalement, c'était le dessin. Mais comme au bout d'une année, j'avais gagné 3000 francs, j'ai dit, bon, j'arrête, c'est trop dur, et je suis devenu journaliste.
Vous n'aviez pas vu les crayons de couleur dans Massinger, dans le portrait?
Mais vous avez vraiment regardé?
Mais oui,
c'était un indice.
Moi, j'adore ce genre d'émission, Valérie, un peu moins.
Vous avez vu les doigts d'honneur et tout?
Oui,
le
mais qu'est-ce qui vous a appris d'accepter ça?
Bah, j'ai commencé par refuser pendant 2 mois en disant non, bah, c'est pour à mon niveau, vous êtes gentil. En plus, qui y a dedans? Ah, on ne peut pas te le dire. Bon, ouais. Vous êtes gentil, je vais m'en trouver avec Daniel Gilbert et Lonin Piral, allez vous faire foutre. Et finalement.
Tout homme a son prix, c'est ça?
Non, oui, bah, y a, ça joue. Et puis ce qui joue, c'est monté. Finalement, c'était la direction générale de TF1 qui m'appelait en me disant faut absolument le faire. Et en fait, je n'ai pas regretté parce que je me suis énormément amusé dans ce truc.
Et vous avez vraiment gardé le secret?
Ah, j'ai gardé le secret total.
On va reparler du livre. Vous balancez vraiment, vous racontez les choses telles que vous les avez vécues.
Ah bah, c'est ma nature, je dis les choses comme elles sont.
Non, mais quand même, vous écorchez certaines icônes, en particulier Philippe Gildas. Vous dites, j'avais constaté que au moment de Nulle part ailleurs, les rares fois où Philippe Gildas se risquait à inviter un politique type Jack Lang, il le tutoyait en coulisses pour le vouvoyer, à peine le rouge allumé, avec une obséquiosité un peu gluante, son vrai patronyme de Le Prêtre, affleurant sans doute. Bah et oui, donc vous vous êtes dit ce jour-là, moi je ferai l'inverse.
Si un jour, si d'aventure je rencontre des politiques et que je dois les interviewer, je ferai l'inverse. Et ça a beaucoup participé au succès de l'émission.
Bien sûr, du vrai journal. Du vrai journal où vous avez tutoyé les gens. Voilà. Et toujours dans ce même chapitre, vous dites il faut se méfier des images, de l'image des gens. C'est-à-dire que ceux qui ont l'air très sympas, genre Michel Charasse, ne le sont pas forcément.
Non, et
à l'inverse, Philippe de Villiers était plutôt sympa.
Oui, c'est très étrange. On découvre comme ça des personnalités qu'on ignore Et puis, on parle en termes de clients, comme on dit. Vous savez bien ce que c'est, vous recevez des gens tous les jours. Il y en a qui s'avèrent d'excellents clients, même si on ne partage aucune idée avec eux. Et d'autres, on se dit, Charas, il était censé être hyper marrant. En fait, face à moi, ce n'était pas marrant, parce qu'on voulait être marrant tous les deux, donc ça ne marchait pas.
Moi, c'est un de mes pires souvenirs, Michel Charas, sur France 3, dans Parole d'expert.
Il avait été odieux.
Il râlait parce que c'était à la Plaine Saint-Denis et que c'était loin du Sénat.
D'accord.
Et donc. Il était très énervé, pas du tout sympa. Après, il s'était calmé, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout cette image-là non plus.
Qui est le plus sale milieu, la télévision ou la politique?
Ex aequo, je dirais. Mais peut-être la politique, quand même. Là, je crois. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'argument. Vous voulez que je vous dise quoi que...
Non, où je pose la question. Parce que je vous balancez, alors j'y vais. C'est facile.
Je pense que la politique, sans doute, plus encore que la télévision, parce qu'il y a cet enjeu... de pouvoir qui a moins la télévision. Rares, au fond, sont ceux qui ont vraiment un peu de pouvoir à la télévision. Les animateurs, ils n'ont pas tellement de pouvoir, les présentateurs non plus. Ils croient à un moment qu'ils en ont. Dans la politique, on a au moins un petit pouvoir au niveau local, etc. Et il y a un enjeu qu'il faut avoir chevillé au corps, qu'on n'a pas forcément à la télé, où il y a plus de, je dirais, de deuxième couteau, quoi.
À un moment dans le livre, vous dites « Je vous parle d'un autre siècle ».
Vous
sentez comme Michel Sardou ne pas être de ce siècle.
Ouais, il me fait marrer quand je le vois, il me fait marrer parce qu'il dit ce qu'il pense, il a raison. Ouais. Ça manque beaucoup aujourd'hui les personnes qui disent ce qu'elles pensent.
Ouais.
Parce qu'on est tous politiquement corrects, enfin on est censé être tous politiquement corrects, dire tous la même chose au même moment.
Mais on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit les choses. Dans tout, c'est-à-dire en politique ou en...
Ah si,
vous
si.
Dites, ça vous manque.
Si, il y a eu des tas de personnages qui disaient les choses et qui ont disparu. Toute cette génération un peu Audiard, Jean-Yann, machin, tout ça.
Polak à la télé, qui était un peu plus libre.
Il y avait des gens qui disaient des trucs. Aujourd'hui, c'est pour ça que aussi les chaînes d'infos sont un peu emmerdantes à regarder. C'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de ton. Il manque le ton, il manque la libre expression,
et
l'opinion.
Et le regard.
C'est et la subjectivité.
Tout est assez formaté.
Tout est lissé. Ouais. Tout est chiant.
Vous dites effectivement, quand vous êtes embauché sur BFM pour faire un show à la Larry King, que vous comprenez assez vite. Quand à la veille, vous dites « Au fait, tu comptes quand même pas tutoyer tes invités ». Vous vous dites « Bon, j'ai compris qu'il m'engageait pour ne pas être moi ».
Bah oui. Thierry se disait, il est connu, il peut faire un Larry King, on lui fout des bretelles, il a déjà les lunettes. Ouais. En fait, peut-être il voulait que je fasse un peu le bourdin.
Ouais.
Je sais pas. Mais c'était pas moi, puisque moi, c'est le tutoiement et c'est pas l'interview rentre dedans, comme Bourdin qui crie tout le temps, etc. Ouais. C'est très différent.
C'était plus du second degré, mais qui veut dire
quelque chose.
Ouais.
Qui raconte quelque chose, en fait, qui fait qu'on peut cerner mieux quelqu'un.
Ouais.
Qu'est-ce que vous regrettez dans l'affaire Allègre et dans tout ce qui vous est arrivé
Rien du tout.
Et dans l'affaire Baudis
Rien du tout.
Vous aviez la vérité ou pas?
Ah bah la vérité, je l'ai de la bouche, je le raconte.
Vous le racontez dans le livre.
Je l'ai de la bouche d'une des anciennes prostituées qui est dans l'affaire, et qui me raconte que, bon, elle est alors âgée de 16 ans, et elle va dans la fameuse maison là, du lac, où il y avait les parties fines, et on lui avait interdit de monter au deuxième étage. Elle y monte, elle ouvre la porte, et ouais. qu'est-ce qu'elle voit ? Une petite qui n'a pas encore de sein, donc on peut imaginer 10-12 ans, qui est attachée par terre avec des crochets qui sont dans le mur. Elle referme la porte et elle dit « j'en parlerai plus jamais ». Ben, manque de bol, elle tombe sur un gendarme des années plus tard et qui va lui faire raconter, elle va mettre 2 ans avec l'autre ex-prostituée à raconter ce qui se passait dans ces maisons. Et après, Baudis, lui, il est arrivé dans l'histoire parce qu'il a voulu passer à la télé chez Claire Chazal un soir où il transpirait
son innocence.
Pour dire une terrible rumeur va arriver. Bon, alors Baudis, pour être clair, Baudis participe, il n'a jamais ni torturé d'enfants, ni violé d'enfants. Il participait à des soirées chaudes. Voilà, ça arrive. Ça m'a été confirmé, mais de partout. C'est-à-dire, c'était un secret de Polichinelle, cette histoire de Baudis. Là où il n'a pas été très malin, c'est d'aller s'exposer. Je pense que la rumeur serait retombée d'elle-même. Des politiques sur lesquelles il y a des rumeurs, vous les connaissez comme moi, ça ne sort
ça
jamais.
Ça ne sort jamais, ouais.
On a parlé au Maroc, de ça. J'ai pas vu un média sortir un nom, alors qu'on les connaît tous. Ouais. Eh bien, dans le cas de Baudis, pourquoi il est allé à la télé ?
Mais est-ce que ces histoires sont vraies ? L'histoire du Maroc, pour vous, elle est vraie ?
Bon, évidemment qu'elle est vraie. Bien entendu qu'elle est vraie. Il y a des histoires comme ça, il y en a plein. Ouais. Plein. Et tout ça a été tenu sous le boisseau pendant très longtemps. Et puis là, le couvercle est en train d'exploser.
Non, mais on voit avec l'affaire Maznev, où tout le monde semble d'un seul coup découvrir ses écrits. Et on ne l'a pas cité hier, on l'a évoqué.
Voilà,
mais
c'était comme si ce n'était pas grave. C'est ça. Comme si, il faut bien que jeunesse se passe, n'importe quoi. Ouais. Et c'était juste dégueulasse. Les gens le savaient, mais ils fermaient les yeux. C'est plus tolérable.
Donc vous êtes d'accord avec les mouvements MeToo, Weinstein et tout ça ? Moi, j'aurais cru que...
Oui, bien sûr. Ah bah oui, à fond la caisse. Et notamment concernant les enfants. Parce qu'un enfant qui est violé, il est fracturé pour la vie entière. Ouais. Donc, et malheureusement, parfois, il devient lui-même agresseur. Ouais. Donc il faut arrêter ça. Vous connaissez la statistique européenne ? 1 enfant sur 5 est abusé en Europe. Ouais. 1 enfant sur 5. Ouais. C'est une statistique de 2016 qui vient du Conseil de l'Europe. Qui en parle ?
Ouais.
Ils sont où ces enfants ? Ça fait 3 entre 3 et 5 par classe. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ?
Vous aviez vu le documentaire de Zone Interdite sur l'aide à l'enfance ?
Oui.
On va en reparler tout à
l'heure.
C'est absolument terrifiant d'imaginer que c'est un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas, que ces enfants qui sont déjà fracassés par la vie sont livrés parfois à des prédateurs et abandonnés. On va en parler dans un instant. Carl Zéro balance tout. Vous balancez même sur Johnny. Ça a été repris. Donc quand Cyril Lafitteau, que je connais bien, a fait la poupée de Johnny, je ne connaissais pas l'anecdote, qu'on lui apporte la poupée dans la loge, il fait quoi ?
Cyril Lafitteau lui apporte la poupée, sort de la pièce, Johnny déchire la boîte, baisse le pantalon de la poupée et dit « Oh, mais il n'a pas une grosse bite de noir !»
Voilà. Et bah pourquoi ? Et il vous répond « Ça m'aurait vengé parce que franchement, j'en ai une petite, pas toute petite, mais bon, voilà, toute Johnny.
C'est très franc, très drôle et très sympathique.
Et vous aviez...
Il est super, votre bouquin.
Et vous aviez prévu que Laetitia serait l'héritière.
Quand je l'ai vu débouler, je me suis dit « Ah, c'est malin !»
Ouais. Merci beaucoup Carl Zéro d'être venu. Je conseille vraiment votre livre. Carl Zéro balance tout, il est sincère.
C'est Parlons Vrai, c'est le slogan de Sud Radio.
Oui, Parlons Vrai, c'est Parlons Vrai. C'est aux éditions Télémac Plon et vous passerez un super moment parce qu'effectivement, ça parle d'une autre époque, ça parle vrai. Voilà, et ça dit plein de choses. On n'a pas tout dit en plus. Merci à vous, Carl Zéro.
Merci
d'être venu. Et on va parler justement de l'aide sociale à l'enfance et des graves dysfonctionnements dans un instant.
Il y a du boulot.
Absolument.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, la diffusion sur M6 d'un documentaire dans Zone Interdite, d'un documentaire glaçant sur l'aide sociale à l'enfance a révélé de très graves dysfonctionnements, de très graves défaillances dans de nombreux foyers. Au-delà de cela, c'est toute la question des enfants placés qui doit être posée de façon urgente. Le ministre Adrien Taquet a annoncé une enveloppe de 80 millions d'euros pour une trentaine de départements la semaine dernière. On va en parler ce matin. Je vous précise qu'on a sollicité le ministère, on a sollicité Adrien Taquet qui nous a répondu qu'il n'avait rien à ajouter de plus à ces annonces. Pour en débattre, Lies Loufoque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien enfant placé, vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Vous avez publié Dans l'enfer des foyers chez Flammarion. Et Perrine Goulet, bonjour. Vous êtes députée LREM de la Nièvre. Vous étiez dans le documentaire de Zone
interdite. Rapidement, vous avez rapidement, effectivement. Vous avez vous-même été une enfant placée. Vous avez connu ces foyers. Déjà, peut-être, je vais vous poser la question à vous. Liès, documentaire, vous l'avez vu. Vous avez été surpris, non ?
Non, je n'ai pas été surpris parce que, déjà, ce n'est pas le premier documentaire qui fait état de violence dans les institutions de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des violences qui ont déjà été rendues visibles par d'autres documentaires. Et puis, je suis d'autant moins surpris que ce qui a été diffusé sur M6 est exactement ce que moi, j'ai pu subir quand j'étais placé. Ouais. Et ce que partagent aussi, je pense, beaucoup
de très nombreux enfants. Il y a Françoise Laborde aussi qui alerte sur ça. Il faut la citer, hein, on voulait l'inviter, mais elle n'était pas là, sur cette situation des enfants. Vous, madame la députée, quel est le constat que vous faites aujourd'hui ? C'est qu'on a voulu mettre la poussière sous le tapis pendant des années. On continue de le faire ?
Alors, effectivement, je pense que c'est tout à fait ça. Hein. On voit bien dans tous les témoignages qu'on a pu recueillir, et notamment dans ces documentaires, qui, effectivement, en tant que nous, enfants, ex-enfants placés, ne nous apprend rien. Ouais. Mais ce que ça nous apprend, c'est que ça ne bouge pas. Et ça, je pense que c'est le plus compliqué. Voilà, je pense qu'on a effectivement, pendant longtemps, mis les choses un petit peu à l'écart, parce que c'est des enfants, parce que les enfants ne parlent pas. Donc c'était simple, en fait. On s'en occupait moyennement. C'était pas un sujet d'actualité, on va dire. Sauf qu'on est maintenant dans une nouvelle ère, avec également tout ce qui est les réseaux sociaux. Ouais. Et on se rend compte, ça va dans la vague, hein, avec les dénonciations des violences faites aux femmes, les dénonciations des violences sexuelles dans le sport, ou MeToo, ou ce genre de choses. Et maintenant, je pense que les enfants, ils ont envie de dire aussi, certes, ça fonctionne pour certains, mais ça dysfonctionne aussi pour beaucoup.
Mais vous diriez que la majorité, c'est de dysfonctionnement ou pas ? Parce que Zone Interdite a mis vraiment l'éclairage sur des centres qui étaient particulièrement terribles. Mais est-ce que c'est le cas partout ? Est-ce que c'est le cas ? Il y a eu pas mal de livres de témoignages, je vous disais juste avant l'émission. Il y en a un autre, un livre qui s'appelle « Placé, déplacé, de famille d'accueil en foyer, le combat d'un enfant sacrifié » d'Adrien Durousset, qui est un livre terrible. Lui, il était, comme vous, placé de famille en famille.
Absolument.
Alors, est-ce que c'est la majorité ?
C'est la majorité, justement ? Il y a un chiffre qui est très récent et qui nous indique beaucoup. C'est la première fois qu'on l'a. C'est le chiffre de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé nous indique que 60% des enfants placés dans des maisons à caractère social, autrement dit des foyers, sont victimes de violences. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc si 60% des enfants placés en foyer sont victimes de violences selon la Haute Autorité de Santé, on peut clairement parler d'une généralisation de ce phénomène de violence. Et ce qui m'inquiète profondément, c'est justement le peu de prise en considération des pouvoirs publics, alors que c'est un fléau qui touche des générations tout entières. Ouais. Souvenez-vous de l'assistance publique, souvenez-vous de la DAS, aujourd'hui c'est l'aide sociale à l'enfance. Les témoignages après la Seconde Guerre mondiale sont quand même, je trouve, assez similaires à ceux que l'on peut encore entendre aujourd'hui.
Oui.
Et moi, Périne Goulet. Je pense qu'effectivement, on mesure surtout la réussite d'une politique publique à ses résultats.
Oui.
Or, les chiffres des résultats de cette politique sont pour moi non satisfaisants. 70% des jeunes qui sortent sans diplôme, un quart des jeunes de moins de 25 ans qui sont à la rue sortent de l'aide sociale à l'enfance. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on fait tous les efforts du monde, mais aujourd'hui, les résultats sont là. Et les statistiques sont là. Donc, écoutons les statistiques, regardons la réalité en face. Et enfin, arrêtons de dire que tout va bien. Bien sûr qu'il y a aussi des parcours qui fonctionnent bien. On a pu, l'année dernière, quand on a fait la mission d'information, entendre des types de parcours qui fonctionnent. Mais les clés de la réussite, on les connaît. Ouais. Donc, appuyons-nous sur, effectivement, ces clés de réussite pour les déployer un peu partout
sur le territoire. C'est quoi les clés de la réussite ?
Eh bien, je vais reprendre effectivement le témoignage de cette jeune Maëlle. Hein. Elle avait été placée avec son frère, donc conservation de la fratrie, unicité de placement. Elle est restée constamment dans la même famille d'accueil. Elle a eu un suivi médical et psychologique qui lui a permis de dépasser. On l'a accompagnée dans ses études. Elle a eu un contrat jeune majeur. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Simple, oui, non, parce que le problème, c'est visiblement, sont les familles d'accueil. C'est ce que
le problème, ce n'est pas que les familles d'accueil. Le problème, c'est la stabilité dans les parcours de protection de l'enfance. Aujourd'hui, on considère qu'il est normal qu'un enfant soit placé parfois jusqu'à sa majorité, de sa naissance à sa majorité, donc pendant 18 ans. Il n'y a absolument rien de normal là-dedans. Non. Ce qu'il faut, c'est clarifier le statut juridique de l'enfant, savoir si le parent peut exercer son autorité parentale ou pas, et s'il ne le peut pas, dans ces cas-là, permettre des adoptions simples. C'est ce qui garantit une sécurité affective, une sécurité de parcours aussi, parce que ça évite les changements trop fréquents de lieu à droite et à gauche. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas seulement le mode de placement. Certes, les familles d'accueil sont des dispositifs très différents de ceux de la collectivité en foyer. Les deux ont des apports. Par contre, les deux manquent cruellement de normes et les enfants restent placés beaucoup, beaucoup trop longtemps.
Oui. Et ça, est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre d'enfants placés qui sont... qui seraient adoptables? Je ne sais pas très bien comment formuler la question, alors, c'est-à-dire d'enfants qui ne reverront finalement jamais leurs parents.
Alors, il y a deux conditions pour rendre un enfant adoptable. Soit il a perdu ses parents et les pupilles, soit ses parents le délaissent. Donc, il faut un certain temps pour que le parent ne prenne pas de nouvelles de son enfant et que les travailleurs sociaux déclenchent la procédure de délaissement. Ça commence à frétiller un petit peu sur cette thématique-là, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Et par contre, le cas de Liès, pour moi, m'a beaucoup interrogée, parce que Liès avait une maman aimante qui n'était pas en capacité de s'en occuper, et du coup, pas de délaissement. Donc, pas de possibilité d'autres parcours pour des enfants comme Liès. Donc, il faut vraiment qu'on regarde aussi la notion d'incapacité permanente de s'occuper d'un enfant. Il y a des personnes... Alors, ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap, mais certaines personnes en situation de handicap, notamment, ne pourront jamais s'occuper de leurs enfants au jour le jour, mais les aiment. Donc, il faut qu'on puisse rendre adoptable ce genre de parents, ce genre d'enfants, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de couples qui attendent
d'accueillir de pouvoir accueillir un enfant
même si,
de façon stable.
De façon stable, même si ce n'est pas forcément avoir un enfant à leur nom. Mais, c'est de pouvoir avoir... donner de l'amour à un enfant. Donc, il faut vraiment qu'on fasse évoluer ces choses-là.
Mais il y a un problème aussi dans le contrôle des familles. Enfin, vous le racontez dans votre livre, Adrien Durussel racontait aussi, il a été placé dans des familles plus ou moins maltraitantes avec la complicité d'assistantes sociales qui venaient et qui ne signalaient pas ces problèmes.
Complètement, et c'est pour ça. Alors après, est-ce que c'est la responsabilité individuelle des assistantes sociales? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que le problème est beaucoup plus large et il s'agit d'un système qu'il faut revoir en profondeur. Je rebondis sur ce que vous avez dit au début de l'émission. Adrien Taquet a annoncé un certain nombre de mesures suite à la diffusion du reportage de M6, et notamment la mobilisation des préfets pour qu'ils lui fassent remonter les plans de contrôle mis en place par les départements. C'est absolument scandaleux. On est en train de perdre un temps fou à protéger des enfants qui sont maltraités dans des institutions. La seule chose que le ministre est capable de demander, c'est qu'on lui fasse un retour sur les plans de contrôle qui existent. Non, il faut arrêter de dire aujourd'hui que les départements peuvent avoir cette capacité de contrôle. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent, voire très rarement. Le département ne doit plus être jugé parti dans ces situations, tout simplement. Donc c'est pour ça que nous, on demande des choses qui sont très simples, qui relèvent vraiment du bon sens et qui ne coûtent pas cher. C'est la création d'un fichier national pour recenser les agréments des familles d'accueil, parce qu'aujourd'hui, il est encore possible pour une famille d'accueil ayant maltraité un enfant, ayant été virée, parce qu'évidemment, une famille d'accueil n'a pas à maltraiter un enfant, de retrouver du travail dans le département voisin, parce que les départements ne communiquent pas entre eux. Incroyable. Il est possible pour un foyer de fonctionner en vase clos sans ouvrir ses portes à qui que ce soit, même pas à une députée, et de faire en sorte que les enfants continuent d'être maltraités dans l'indifférence la plus totale. C'est pour ça qu'on demandait à ce qu'il y ait une agence nationale de contrôle de ces établissements. Il faut savoir que les foyers, selon la Cour des comptes, en France, ne sont contrôlés qu'en moyenne une fois tous les 26 ans.
Donc, juste pour revenir, j'entends très bien ce que dit Liès par rapport à la mesure insuffisante du ministre de demander un état des lieux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une première. C'est-à-dire, quand je dis c'est une première de l'État dans cette politique, il faut savoir que c'est une politique qu'on appelle décentralisée, qui est à la charge des départements. Donc c'est à eux d'organiser comme ils le souhaitent cette politique. L'État, normalement, n'a pas à s'immiscer dans cette politique, c'est une politique décentralisée.
C'est pas la première.
Donc là, c'est quand même la première fois qu'un ministre demande des comptes aux départements sur leur contrôle. C'est quand même, pour moi, un premier pas. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant, puisque moi, notamment avec les collègues de la mission d'information, on porte une gouvernance bicéphale entre l'État et les départements, en laissant les départements effectivement faire sur le terrain, mais en ayant un appui des services de l'État pour accompagner les enfants et puis effectivement pour avoir ce type de contrôle et pour éviter cet écueil de juger parti. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que c'est quand même un signe fort où l'État demande des comptes aux départements, ce qui a quand même été rarement fait par le passé.
Laurence Rossignol, qui était aussi ministre de l'Enfance sous le quinquennat précédent, sous François Hollande, a aussi mené cette démarche-là. Le problème, c'est que pendant 18 mois, Emmanuel Macron a supprimé ce ministère de l'Enfance quand il a été élu président de la République. Ouais. Je trouve ça...
Moi, je veux bien qu'on revienne sur ce qui a été fait avant, mais si ça avait été si bien que ça, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Mais non, c'est ça, le gouvernement, c'est ça.
aujourd'hui, c'est aussi l'incurie de très nombreuses années.
On a perdu un temps absolument dramatique. Je veux dire, 18 mois sans ministère de l'Enfance parce que Emmanuel Macron a été élu.
Est-ce que ça aurait été mieux? Ça fait des années.
Non, mais vous savez, la question, elle ne doit même pas se poser. Adrien Taquet, il a été nommé l'année dernière à ce poste de secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance après un reportage qui montrait au grand public les violences que nous subissons. Les mesures, elles auraient dû être prises à peine une semaine après. Il y a une situation qui est urgente. On n'a pas à attendre un an, deux ans pour proposer des réformes, mettre en œuvre des réformes.
C'est vrai que ce reportage,
je voudrais juste dire que
juste la réaction qui arrive après la diffusion d'un reportage,
c'est là-dessus que je voulais en venir. Comme on l'a vu dans un reportage sur Brigitte Macron, j'ai été shortlistée en amont de ce reportage-là la partie du secrétariat d'État. Donc, le président n'a pas réagi par rapport à ce reportage. C'était un haut commissaire au départ. Donc, le président avait bien annoncé dès les mois précédents qu'il allait mettre en place quelqu'un pour gérer la protection de l'enfance. Ça a peut-être accéléré les choses, mais en tout cas, ne disons pas que le président s'est réveillé avec ce reportage. J'avais eu des entretiens avant.
Il y a un effet d'annonce.
Mais parce que c'est tombé comme ça, j'allais dire.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'émission? Est-ce qu'il y a eu...
Alors, depuis l'émission, le ministre effectivement... Ouais. Après, je comprends, le ministre est arrivé sur une politique qu'il ne connaissait pas forcément sur le bout des doigts. Il a passé un moment à faire un état des lieux. Je trouve ça plutôt intéressant. L'avantage, c'est qu'entre son état des lieux et celui que nous, on a fait côté parlementaire... Quand je suis allée la semaine dernière voir les départements de France, on est assez d'accord sur l'état des lieux, ce qui est déjà un premier pas, parce que pendant des mois, quand même, les départements disaient que non. Donc là, on est d'accord sur l'état des lieux. Maintenant, il faut qu'on trouve les solutions. Et là, on a besoin des départements et de l'État. Moi, je pense que les deux doivent agir de concert. Et c'est bien une révolution de gouvernance qu'il faut mettre en place.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Jean de Rideau qui est avec nous, qui nous a rejoint, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, qui est très intéressé, très concerné par le sujet. Vous êtes psychologue. On va en reparler avec vous dans un tout petit instant. 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on parle de l'aide sociale à l'enfance. J'ai envie de reprendre le titre du livre de Françoise Laborde, Le massacre des innocents, les oubliés de la République. On en parle ce matin avec Liès Loufoque, donc ancienne enfant placée, membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Votre livre indispensable si on veut comprendre ce que vous avez pu vivre dans l'enfer des foyers, paru chez Flammarion. Perrine Goulet, vous êtes députée La République En Marche de la Nièvre. Vous avez été placé vous-même, vous avez connu ces foyers en fait, et vous êtes la première élue, enfin la première personne à avoir été députée élue dans ce cas. On évoquait ce qui avait changé depuis, et Jean de Rideau, pardon, psychologue que nos auditeurs connaissent bien, juste un mot sur ce qui a changé depuis l'émission d'M6 où on a vu ces conditions absolument désastreuses de vie de ces jeunes, où on engage n'importe qui, où ils sont violentés, où ils sont sédatés. Qu'est-ce qui a changé, Elias ?
Alors, il y a une chose fondamentale qui a évolué, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est le niveau de conscience de la société sur ces problématiques-là.
Oui, mais concrètement, sur des enfants maltraités aujourd'hui.
Où moi, j'ai un vrai problème, c'est que pour la première fois, et ça me brise le cœur de le dire de cette façon, mais j'observe que la protection de l'enfance depuis la nomination d'Adrien Taquet régresse. Je vous rappelle que dans le documentaire de France 3 et notamment dans le documentaire de M6, il y a des séquences qui montrent par exemple des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes le jour de leur anniversaire à 18 ans et à la rue. Perrine a rappelé les chiffres, c'est une personne sans domicile fixe sur 4.
On a un auditeur qui témoigne de ça en disant à 19 ans, je me suis retrouvé sans revenu, sans logement, sans rien.
Il faut savoir que le gouvernement, le Parlement, l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire par le biais de Brigitte Bourguignon, qui est la présidente de la Commission des Affaires Sociales, avait déposé l'année dernière une proposition de loi que nous avons soutenue corps et âme d'ailleurs, pour rendre obligatoire la protection de ces enfants au-delà de la majorité jusqu'à 21 ans. Le gouvernement, juste après la nomination d'Adrien Taquet, est passé sur ce texte, a amendé le jour de l'examen en séance publique quasiment tous les articles et ont durci les conditions pour obtenir cette protection en fixant un âge en dessous duquel il faut avoir été placé. En revanche, Il faut avoir été placé avant 16 ans pour bénéficier de cette protection. Et ça, c'est un scandale parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 44% des jeunes qui sont protégés après 18 ans sont des jeunes qui ont été placés après 16 ans. Donc, on a un durcissement aujourd'hui des conditions pour bénéficier de cette protection qui est absolument scandaleuse. Ce n'est pas faux.
C'est faux puisque le texte n'est pas passé au Sénat, donc il n'est pas validé. Donc, c'est la loi actuelle qui
le texte est déjà passé au Sénat, mais c'est quand même le projet.
C'est le projet. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, les conditions étaient durcies.
Mais bien
si elles sont durcies, c'est parce que le
dans la proposition de loi.
Non, mais la proposition. On reste au statut.
C'est ce qui a été voté par la représentation nationale et par la majorité présidentielle.
Je vais finir d'expliquer. Une loi n'est applicable que quand elle a été validée par les deux chambres.
Absolument, mais c'est quand même votre projet, vous l'avez voté.
L'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité. Donc, si les conditions se durcissent à l'heure actuelle, laisse-moi finir. Si les conditions se durcissent aujourd'hui, ce n'est pas de la faute du gouvernement, c'est de la faute du département qui a durci.
Justement, bien sûr que non. Jean Dorido.
Puisque ce n'est pas passé cette. Mais non, mais à un moment, il faut savoir aussi dire les
textes qui durcit clairement nos droits.
Elle est niée quand même. Non, mais je n'ai pas dit la loi. Sauf qu'elle n'est pas applicable, cette loi.
Pour le moment, mais
elle attend d'être projet de loi. Mais elle peut être modifiée encore et elle sera modifiée.
Alors, Jean Dorido, vous vouliez revenir justement sur la responsabilité des départements.
Oui, alors bon, d'abord, j'aimerais quand même saluer la présence de vos deux invités, Valérie Expert. C'est vraiment, je trouve, un beau message d'espoir pour tous les enfants qui passent par l'ASE. Voilà, de voir qu'on peut vraiment réussir à se réaliser et apporter
combien en contrepartie d'enfants brisés.
Ce que vous soulevez, Valérie, c'est vrai que on le voit bien quand on vous écoute. Vos échanges sont passionnants et passionnés. Simplement, le problème majeur, me semble-t-il, sur la question de la protection de l'enfance, c'est que c'est une fonction qui devrait être régalienne, qui devrait être assurée par l'État, et pour un non-initié, c'est complètement incompréhensible qu'on laisse une fonction aussi importante à la charge des départements qui n'ont plus d'argent, ça coûte très cher de s'occuper d'un enfant placé, et on sait bien qu'ils font des pirouettes de budgétaires absolument inouïes. On vous entend, Madame le député, et bien sûr, vous connaissez bien les dossiers, et bien rappelez à quel point un enfant aujourd'hui qui passe par l'ASE n'a pas le même traitement selon justement le département de France dans lequel il traverse cette épreuve, et ça, c'est absolument incroyable, et puis c'est assez inadmissible dans un pays comme la France. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on attend pour faire de cette protection de l'enfance une fonction régalienne qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être.
Alors, après, pour avoir échangé avec des personnes qui étaient sous le statut de la DAS à l'époque, c'était pas forcément plus brillant, c'était l'État à l'époque. Non, mais il faut aussi remettre un petit peu tout le monde dans son contexte. C'est pas une politique qui dysfonctionne depuis 5 ans, elle dysfonctionne depuis 40 ans. Bon. Maintenant, c'était pas forcément formidable sous l'État, c'est pas du tout formidable sous les départements. Donc, à un moment, moi, ce que je regarde, c'est que, à mon avis, il faut travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que les départements, effectivement, ont l'ancrage avec les travailleurs sociaux sur le terrain, que n'aura jamais l'État.
Et à contrario,
ce qui manque, c'est du lien entre. Je vois, par exemple, je vais prendre un exemple.
C'est quoi du lien ?
Eh bien, je vais vous prendre un exemple. Le cas de la petite Lali. Que vous connaissez toutes, qui a été défenestrée par un de ses camarades de classe. Bon, là, quelle est l'erreur pour moi ? Eh bien, c'est que l'État, l'Éducation nationale, n'a pas été informé par le département qui s'occupait de ce petit garçon, de la pathologie de ce petit garçon. Et aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut un pilotage bicéphale État-département ? C'est qu'il faut que les gens ils soient capables de parler de l'enfant tous autour d'une table.
Les bras vous en tombent quand vous entendez ça, non ?
Mais bien sûr que moi, les bras m'en tombent quand j'entends ça. Mais aujourd'hui, on peut continuer à dire oui, les bras m'en tombent, etc. Ou essayer de réfléchir à une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance. Parce que le but pour moi, c'est bien de mettre l'enfant au cœur du système.
Bien sûr.
En disant, l'enfant, il a besoin de quoi ? Il a besoin, effectivement, quand il est placé du département pour la famille, la partie gardante, le coucher, etc. Oui. Mais il a besoin de l'Éducation nationale et de profs qui connaissent sa situation pour pouvoir, eh bien, quand il a une crise, ne pas forcément le renvoyer tout de suite. Il a besoin de soins médicaux. Et donc, il y a quand même eu l'année dernière de voter dans le projet de finance et sécurité sociale pour la première fois un bilan à l'arrivée de l'enfant.
Donc, c'est les 30 millions
médical.
D'où les 30 millions.
Il a besoin également de sport. Donc, je suis en train de discuter avec la ministre pour voir comment on peut faire pour que ces enfants aient accès au sport qu'ils souhaitent. Donc, on voit bien qu'ils ont besoin des parties sociales du département, mais ils ont aussi besoin de toutes les fonctions régaliennes de l'État.
Pardon, madame le député, mais enfin, oui, c'est quand Jean même difficile. Je vous entends, c'est quand même, c'est difficile. À l'heure actuelle, l'homme va bientôt aller sur la planète Mars. Mmh. On est à l'heure des GAFA. Mmh. Les informations circulent en moins de temps qu'il n'en faut pour le
Et
dire.
Ça, c'est pas de l'humain.
Lies en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, une famille, une famille qui reçoit des enfants placés peut maltraiter des enfants et retrouver dans le département voisin un emploi.
Ah, mais ça, je partage complètement. Ça fait partie des mesures.
Qu'est-ce qu'on attend pour faire pour centraliser les informations, je vous en parle,
mais
mettre autour d'une table.
C'est pour la semaine. C'est pour ça qu'il faut une gouvernance bicéphale à la tête de l'État.
Alors, centraliser les informations, surtout.
Mais oui, vous voyez qu'un ancien inspecteur de l'aide sociale à l'enfance a été placé en détention la semaine dernière par un juge de liberté pour avoir violé une mineure. Alors, il avait déjà été signalé.
Il avait déjà été mis en examen pour des viols et des harcèlements sexuels, notamment sur 4 mineurs de l'aide sociale à l'enfance. Il vient d'être écroué suite à une seconde mise en examen pour des violences sur sa conjointe.
Voilà. D'accord, c'est encore autre chose.
Mais aujourd'hui,
sur la renationalisation de la protection de l'enfance, moi je ne suis pas en accord parce que la DAS, on la prend souvent comme un exemple pour la refuser en disant à quel point c'était dramatique à l'époque. Oui, c'était dramatique à l'époque, c'était pas mieux qu'aujourd'hui, mais c'était un contexte socio-économique largement différent de ce qu'on connaît maintenant. Et donc, la renationalisation pour moi de la protection de l'enfance, elle a tout son sens quand on sait que ce sont déjà toutes les compétences régaliennes de l'État qui interviennent auprès des enfants placés. Qui place les enfants ? La justice. C'est la justice qui décide le placement des enfants. Qui s'occupe des enfants toute la journée ? C'est l'éducation nationale. Ils sont à l'école. Qui s'occupe des soins ? Qui pilote les soins pour les enfants placés ? C'est aussi l'État par le biais de son ministère de la Solidarité. Donc finalement, le département, à part payer, n'a aucun autre rôle que celui-ci.
Mais
et ça, c'est absolument pas normal, parce que quand il faut aller contrôler, quand il faut poser un peu de coercition, quand ils font pas leur boulot, on nous renvoie au principe constitutionnel de libre administration des territoires qui nous interdit d'imposer quoi que ce soit au département.
Mais
donc
mais
on a 100 départements
bien,
qui sont dans la toute-puissance.
C'est bien pour ça que
absolument rien à faire.
Avec les disparités qui sont inouïes.
C'est bien pour ça que je plaide, par exemple, pour que les directions régionales de la cohésion sociale dans nos territoires, des directions départementales, puissent, comme elles vont contrôler les centres aérés, puissent aller contrôler ces instances-là. Et je pense que, quand vous disiez qu'est-ce qu'a apporté ce reportage, il y avait notamment un président qui était là à l'avant-première à l'Assemblée nationale, et en voyant le reportage, il s'est dit « mais nous, on ne fait que des contrôles ». Programmé. Ben à un moment, il faut aussi que les départements fassent des contrôles non programmés. Oui. Et puis,
non, que l'État, le département ne peut pas être jugé partie.
Non, mais j'ai dit les deux. Je pense qu'il faut les deux. Il faut l'État et aussi le département, parce que c'est quand même lui qui est en responsabilité. Il faut quand même qu'il aille voir ce qui se passe.
La proposition, ce qu'a annoncé Adrien Taquet, et paraît quand même assez injuste de dire qu'il y aura que 30 départements.
Mais c'est scandaleux.
En gros, c'est un enfant maltraité dans un des 71 départements n'aura pas la même protection.
Absolument. Mais c'est le début, depuis le début du quinquennat, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'est la méthodologie qui a été choisie. La méthodologie, c'est la contractualisation. On marchandise la solidarité nationale. On passe des contrats avec des dispositifs comme s'il s'agissait d'entreprises. Ce n'est pas le cas et il ne faut surtout pas que ça le devienne. Donc moi, quand je vois en effet que Adrien Taquet nous annonce une stratégie, je cite, national de protection de l'enfance et qu'il oublie 71 départements, c'est purement scandaleux.
Alors,
que dit-on à ces 70, à ces enfants qui sont placés dans ces 70 départements ? Que leur vie coûtera compte moins que ceux des 30 avec qui l'État a décidé de passer des contrats.
On a un petit peu de mal à comprendre.
Alors, en préparant les départementales sur notre dos avec beaucoup de cynisme.
Sauf que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu un appel à projet. Déjà, tous les départements n'ont pas postulé, parce qu'il y a des départements qui
n'intéressent pas. Il y en a eu 71 qui ont postulé. Voilà.
Mais parce que c'est un scandale.
Donc, non, il n'y a pas que ça. Il y en a, c'est pas une priorité.
La Gironde refuse la contractualisation. L'année prochaine, il y en a d'autres qui refuseront de
contractualiser. On sait bien également que derrière, il y a de la politique qui joue. Et je pense que c'est plus ça, moi, qui me gêne, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de moyens financiers. On sait très bien que ce n'est pas forcément les départements qui ont le moins de moyens financiers qui ne font pas le plus, et inversement. On a également des départements qui ont d'énormes moyens financiers et qui, pourtant, ont un suivi de ces enfants déplorables.
Les Hauts-de-Seine,
donc,
notamment.
Donc, effectivement, emmener de l'argent sur ces départements-là qui ont déjà les moyens financiers, mais qui ne font pas le job, pense qu'il vaut mieux aller aider des départements qui ont envie, qui ont des projets précurseurs, des envies d'avancer. Et puis, c'est une première. C'est un accompagnement cette année, et on compte bien que l'année prochaine, mais il faut que les départements soient volontaires.
80 millions,
ça sert à rien d'aller injecter de l'argent si c'est pas pour être sûr que ça aille vers les enfants.
Que les auditeurs comprennent bien. 80 millions d'euros, C'est une goutte d'eau dans l'océan. La protection de l'enfance, vous savez combien coûte un placement? C'est 55 000 euros en moyenne par an.
En même temps, les départements, ils investissent. Ils assument aussi la partie financière.
On ne peut pas dire qu'il faut travailler avec l'État et parler de bipartie pour la protection de l'enfance.
En tout cas, il y a une prise de conscience. Je ne le renvoie pas qu'au financement, mais à un moment, on
n'aura
pas une politique de gouvernance, effectivement, en ayant le référentiel de traitement des informations préoccupantes, le référentiel pour les assistantes familiaux, l'accompagnement des enfants à la justice, etc. Il y a quand même énormément de choses. Regardons mes 18 propositions.
C'est aussi de Gabriel qui nous dit « C'est scandaleux, j'ai été placée entre l'âge de 11 ans et 18 ans. Nous étions comme une meute de loups. Oui, et se faire accepter est une épreuve de tous les jours avec des enfants très différents. J'ai vu la violence, les coups, la sexualité débridée, fugue, persécution. »
Il y a une association qui existe pour ces enfants, c'est l'association Repair. R-E-P-A-I-R-S.
D'accord, on le signale pour ceux qui nous ont appelés. Merci Perrine Goulet, merci à vous Liès Loufoque. On peut vous suivre sur les réseaux et votre livre « Dans l'enfer des fous » ainsi que le livre de Françoise Laborde, Le massacre des innocents, les oubliés de la République. Et merci à Jean de Rideau. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.